Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la politique étrangère israélienne face aux recompositions au Moyen-Orient. Israël et ses voisins regardent sur les enjeux d'un rapprochement avec les pays du Golfe, ou tout au moins certains d'entre eux. Rapprochement d'abord économique initié dans les années 80 avant de devenir sécuritaire, particulièrement depuis 2011. Les changements de leader tant en Arabie Saoudite qu'aux États-Unis ont semble-t-il marqué un tournant. La constitution d'un axe anti-iranien allant de Tel Aviv à Washington en passant par Abu Dhabi et Riyad n'est certes plus un secret, il n'en pose pas moins des questions. Regard sur les enjeux de ce rapprochement et l'évolution à attendre de la diplomatie israélienne dans un contexte marqué par l'affaiblissement de la cause palestinienne, le net recul de Daesh, l'implantation de l'Iran et de la Russie au Levant, l'intervention de la Turquie en Syrie et la tension qui va croissant depuis la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Par téléphone depuis Bahreïn, Elisabeth Marteux, chercheuse sur le Moyen-Orient à l'Institut international des études stratégiques, spécialiste du conflit israélo-palestinien, auteur de Israël et les pays du Golfe, les enjeux d'un rapprochement stratégique, une étude de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Ilan Grelzheimer, professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan, près de Tel Aviv, auteur de nombreux essais sur la société israélienne, dont la nouvelle histoire d'Israël, parue aux éditions Gallimard. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et auteur de l'Arabie Saoudite et Israël, une alliance discrète autour d'intérêts communs, article paru dans le dernier numéro de la revue Questions internationales consacrée à l'Arabie Saoudite, également auteur de Guerre Iran-Irak aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Le Moyen-Orient, il est aujourd'hui polarisé à l'extrême autour des ambitions iraniennes et saoudiennes. La posture d'Israël a évolué ces dernières années, marquée par un rapprochement économique d'abord avec Doha et Oman durant les années 90 et depuis 2011, convergence d'intérêts sécuritaires avec Abu Dhabi et Riyad autour de deux ennemis communs, les frères musulmans d'une part et l'Iran d'autre part. Plus récemment, les changements de leader en Arabie Saoudite ainsi qu'aux États-Unis, la première visite de Trump fut l'Arabie Saoudite, ont accentué les convergences d'intérêts. Tout cela sur fond de grandes tensions dans la relation entre Israël et ses voisins directs, construction d'un mur à la frontière israélo-libanaise et inquiétude sur les terrains syriens. Comment voyez-vous la situation? Ilan Grelzheimer, l'économiste, dans sa dernière édition, parle de risque de guerre.
Oui, je suis de ceux qui ne croient pas vraiment à ce risque de guerre. La situation est complexe aux frontières d'Israël. Il y a effectivement au nord-est la question de la Syrie et du positionnement des forces iraniennes et des milices chiites en Syrie, sujet sur lequel la Russie joue un rôle d'arbitre évident. Il y a le nord avec le Hezbollah, mais là encore, je pense qu'il s'agit d'un positionnement et je ne vois pas l'intérêt des partis de susciter un conflit. Quant au sud avec le Hamas, je pense que le Hamas n'est pas encore en mesure de reprendre quelque chose contre Israël et je ne suis pas sûr non plus que ce soit son intérêt ni l'intérêt d'Israël de susciter quoi que ce soit là-bas. Donc, j'ai lu non seulement cet article auquel vous faisiez allusion, mais j'ai lu pas mal d'articles disant « c'est une poudrière, n'importe quelle étincelle, etc. » On peut le dire toujours, mais personnellement, je ne vois pas un conflit majeur apparaître dans des temps très proches.
Pierre Razou.
Oui, je suis d'accord avec Ilan Grelzheimer. L'impression que j'ai, c'est que on sort d'une phase d'affrontement régional pour rentrer dans une phase de consolidation. C'est-à-dire que quand vous regardez, tous les acteurs principaux non-arabes de la région ont globalement peu ou prou ce qu'ils souhaitent. Que ce soit la Turquie, que ce soit Israël, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie et indirectement également les États-Unis. Donc la logique de tous ces acteurs-là maintenant, c'est peut-être pas de s'entendre, mais en tout cas de définir des lignes rouges qui vont permettre à chacun finalement de consolider ses gains, consolider ses positions, accroître le développement économique. À ce niveau-là, le corridor terrestre que l'Iran souhaite et pour lequel il s'est battu établir jusqu'à la Méditerranée, c'est bien sûr pour ravitailler les communautés chiites, syriennes et libanaises, soutenir le Hezbollah, mais c'est surtout aussi pour pouvoir exporter son gaz et son pétrole, de même que le gaz et le pétrole irakien, en direction de la Méditerranée et de l'Europe. Par rapport à ce que dit l'article, on rentre dans une phase de guerre froide, je pense. Je crois que l'axe que vous évoquiez n'est pas seulement destiné à lutter contre l'Iran, mais également contre le couple Iran-Russie qui domine aujourd'hui l'Irak, la Syrie et le Liban. Et que qui dit guerre froide dit pas d'affrontement, pas de guerre chaude. C'est-à-dire containment des deux côtés, où finalement chacun y trouve son intérêt, mais essayer d'éviter la montée aux extrêmes.
Elisabeth Marteux.
Alors, je suis d'accord, effectivement, sur le fait qu'il y a peu de risques de conflits directs entre Israël et des groupes armés de la région. Effectivement, on est bien d'accord. Maintenant, il y a une chose que personne ne peut mesurer et surtout anticiper, ce sont les risques de dérapage qui peuvent avoir lieu autant dans le sud de la Syrie, au Liban ou en Égypte et dans le Sinaï. Donc ça, aucun de nous ne peut prévoir ce qui peut se passer sur le terrain et si à un moment donné, un des acteurs a intérêt à intervenir pour répliquer. 2006, c'est typique. Ça a commencé comme ça entre le Hezbollah et Israël. Donc, soyons mesurés et modestes dans notre anticipation de l'avenir au Proche-Orient, des surprises stratégiques, on en a vu arriver ces dernières années en permanence. Alors, ensuite, la question du containment. Alors, effectivement, je pense que les grandes plaques sont plutôt stables. En même temps, quand on voit la situation en Irak, ce qui continue encore en Syrie, ce qui se passe dans le Sinaï, ce qui se passe au Yémen, on a quand même des foyers de crise qui sont bien réels et bien vivants.
Alors, Ilan Grelzamer, risque de dérapage, on pense à deux choses. Finalement, c'est à la frontière entre Israël et le Liban d'une part, et puis d'autre part, la frontière entre Israël et la Syrie, où c'est vrai qu'on voit les choses tout de même, pour ce qui est de la frontière israélo-syrienne, une forte tension. Alors, après ça, j'aimerais qu'on reprenne peut-être ce que disait Pierre Razou à l'instant, quand il disait que la Turquie, Israël, l'Iran et les États-Unis avaient ce qu'ils souhaitent. Qu'est-ce que Israël a obtenu dans ce qui se passe actuellement? On aurait plutôt tendance à penser et à estimer que parmi les perdants, il y aurait Israël.
Non, je ne pense pas du tout. La carte militaire est entre les mains d'Israël. Israël est le facteur de la région qui peut décider et qui a les moyens de décider. Et le fait, par exemple, qu'il y ait un ministre de la Défense actuellement en Israël qui a prévenu très clairement les Libanais que toute attaque du côté du Hezbollah, la réplique serait terrible pour le Liban, et je pense que c'est exactement ce qu'il pense et ce qu'il peut faire, a un effet dissuasif. En ce qui concerne la Syrie, je donnerai la carte diplomatique, la carte politique. Je dirais qu'elle est entre les mains des Russes, puisque ce sont les Russes qui jouent ce rôle d'arbitre entre Israël et l'Iran en Syrie. La Russie est dans une excellente position, dans la mesure où elle entretient des relations tout à fait correctes avec aussi bien les Israéliens que les Iraniens. Et c'est donc la Russie qui joue ce rôle d'arbitre entre les deux. Donc, je ne vois pas Israël perdant dans cette histoire. Je ne la vois pas non plus gagnante quelque chose. Je suis tout à fait dans l'idée d'une consolidation des positions des différents acteurs dans la période qui vient. Au-delà de ça, on ne peut pas prévoir grand-chose.
Alors, peut-être pour ce qui est de la gestion de la politique israélienne avec ses voisins, dans ce foyer ou ces foyers de tension, une information peut-être anodine, mais c'est la nomination d'un nouvel ambassadeur en Jordanie après des mois de tension. C'est oui. un élément qui a son importance, Ilan Grelzamer.
Il y a toujours ce que l'on voit, ce que la presse, ce que les médias disent,
les éléments dont révèlent, on dispose, oui.
Les éléments publics. Mais il y a, en dessous de cette pointe de l'iceberg, énormément de contacts. Par exemple, parler des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite, c'est depuis très longtemps que ces contacts avec Israël existent et cette coordination. Ce qui est assez nouveau, je pense, c'est le fait de passer ça comme information publique. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. En ce qui concerne la Jordanie était obligée d'avoir l'air fâché avec Israël pendant quelque temps. Mais évidemment, ce n'est pas du tout l'intérêt de la Jordanie de se mettre mal avec Israël. Et cette histoire du nouvel ambassadeur israélien était une question de semaines et de quelques temps à passer.
Alors, on reparlera de la Russie avec vous, Pierre Azou, mais je voudrais rebondir peut-être avec Elisabeth Marteux sur ce que disait à l'instant Ilan Grelsheimer quant au contact et ce qui existe et les liens qui existent. On parlait de Israël avec l'Arabie Saoudite. Ce qu'on sent, c'est finalement un énorme décalage entre ce qui est dit par les uns et les autres, surtout pas d'alliance, et finalement ce qui se passe derrière les portes. Elisabeth Marteux.
Oui, alors effectivement, ça a été très bien dit. C'est la question du dessous des cartes au Moyen-Orient, et notamment cette relation entre Israël et certains pays du Golfe. Donc pour les nommer, c'est surtout les Émirats et l'Arabie Saoudite. Ce qui se passe effectivement derrière la porte, on n'en sait rien. Ce qui se passe dans les cercles du pouvoir à Riyad et ce qui se passe entre les Israéliens, les Saoudiens, les Émiriens, quand ils se rencontrent en marge d'une réunion à New York ou d'une grande conférence, on n'en sait rien. Donc c'est vrai qu'on on analyse des indices, on capte ce qui se passe, on a des échos de gens plus ou moins bien placés dans les cercles du pouvoir, et on en arrive à des conclusions, et puis on lit la presse. Et là, il faut faire effectivement très attention, parce qu'effectivement, les relations, les contacts entre les Israéliens et certains golfiens ne sont pas nouveaux du tout, il n'y a rien de neuf. Maintenant, c'est effectivement la visibilité que ça a pris dans les médias. Et là, on arrive à un stade où on a des révélations en permanence. Là, ça a encore été le cas avec Air India qui devrait survoler l'Arabie pour aller en Israël. Finalement, c'est démenti par les Saoudiens. Donc, distinguer le vrai du faux dans toutes les rumeurs, ça devient très compliqué. Qui est sûr, c'est qu'il y a des contacts. Qui est certain, c'est qu'il y a une convergence d'intérêts au vu de ce qui se passe dans la région, de la situation géopolitique, la question iranienne, la question des frères musulmans, donc de l'islam politique. Donc, qui partagent énormément de choses, d'inquiétudes, de priorités, d'intérêts, et une relation privilégiée avec les États-Unis. Et j'ai envie de dire, et également une très bonne relation privilégiée avec la Russie, qui est bien capable d'avoir des relations privilégiées avec l'ensemble de ses partenaires, sans forcément les mettre en opposition. Ils arrivent très bien à faire cela. Donc après, la nature exacte de cette relation, on n'en sait rien. La question, c'est, est-ce que d'un contact, on va arriver à une normalisation politique qui, elle, va véritablement changer la donne dans la région ou pas ? Qu'il y ait des contacts, c'est vrai. Qu'il y ait des entreprises qui fassent du business à Abu Dhabi, à Dubaï, en passant par des sociétés situées aux États-Unis ou en Europe, c'est vrai. On a énormément de témoignages. Maintenant, quelle en est la véritable signification géopolitique ? Là, effectivement, on a souvent une surinterprétation qui est utilisée par l'Iran, par le Hezbollah, qui est utilisée aussi par les forces anti-israéliennes pour décrédibiliser les pays du Golfe, pour décrédibiliser Israël. Et puis, il y a surtout la question palestinienne au milieu. Où est-ce qu'on la place dans ses intérêts israélo-golfiens ?
Bien évidemment, Pierre Razou.
Je crois que c'est ça, le dossier palestinien, c'est le mistigri, c'est-à-dire c'est la carte, c'est le mistigri que chacun essaye de se repasser pour ne pas le garder à la fin de la partie dans ses mains. Je crois que ce qu'il faut bien voir, me semble-t-il, c'est que tant en Israël que dans les monarchies du Golfe, il y a un véritable débat sur la nécessité ou pas de normaliser ou en tout cas d'officialiser une sorte d'alliance tacite entre donc Israël et les monarchies du Golfe. Parce que ce que je vois, enfin quand on regarde les déclarations des uns des autres, quand on discute avec les autorités, etc., c'est que clairement le débat n'est pas tranché. Vous avez et en Israël et dans les monarchies du Golfe des avocats de ce rapprochement qui font valoir toutes les bonnes raisons pour lesquelles Israël et les monarchies du Golfe ont intérêt à travailler ensemble, bien sûr pour contenir l'Iran, mais pas que. En effet, pour contenir les frères musulmans et aussi les djihadistes et Al-Qaïda et Daesh, il faut pas l'oublier, parce que Daesh et Al-Qaïda sont aux frontières d'Israël et sont aux frontières des monarchies du Golfe. Et ceux qui disent, non, en fait, c'est un leurre, nous n'y gagnerons rien, cette alliance tacite n'est pas pérenne sur le long terme, donc inutile de continuer. Ce qui m'amène à parler de ce qu'on disait tout à l'heure sur la consolidation. L'impression que j'ai, c'est que puisque nous sommes dans une guerre froide et qu'on est en train de rentrer dans une phase de consolidation, j'allais dire des deux côtés, entre d'un côté Israël, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats, de l'autre côté, on va dire l'Iran, la Russie et leurs affidés, le mot essentiel, c'est dissuasion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le critère clé, c'est comment ces deux blocs vont ou s'apprêtent à jouer la dissuasion. Et ce que disait Ilan Grelsheimer tout à l'heure est tout à fait juste, c'est-à-dire que la question c'est pas tellement de savoir si il peut y avoir une guerre, mais plutôt la question de savoir où mettre les lignes rouges, c'est-à-dire où les acteurs de ces deux grands camps entre guillemets vont poser les limites aussi bien en Syrie, au Liban et en Irak, sur quelle ligne à ne pas dépasser. Et pour terminer, je dirais que si je vois un problème ou des risques d'affrontement demain ou après-demain, notamment en Syrie, c'est pas tellement entre Israël et l'Iran, c'est beaucoup plus par exemple entre l'Iran et la Russie et la Turquie, qui, et on le voit en ce moment tous les jours, font passer des messages extrêmement durs, disant les uns aux autres, oui, nous sommes les acteurs majeurs en Syrie, mais il n'est pas question que vous preniez plus de positions et plus d'avantages que nous. Donc je ne serais pas étonné d'assister à des frictions, y compris militaires, entre l'Iran et la Russie dans les mois à venir en Syrie.
Alors, encore une fois, Ilan Grelzheimer, on reparlera de la question de la Russie. Qu'est-ce que l'on sait des lignes rouges côté israélien aujourd'hui ?
La question apparemment que discutent Netanyahou et Poutine lorsque Netanyahou se rend en Russie.
La dernière visite, c'était fin janvier à Moscou. Hein.
Oui, mais ce sont des visites, disons, relativement fréquentes. Précisément, je pense que l'essentiel de la discussion entre eux porte sur ces lignes rouges en Syrie, jusqu'où Israël est prêt à tolérer que les forces iraniennes ou les forces qui sont liées à l'Iran soient positionnées. J'imagine que l'Iran veut se rapprocher le plus possible de la frontière israélienne. J'imagine que les Israéliens veulent que ce soit le plus loin possible. Et là, encore une fois, je dois dire que la Russie joue un rôle tout à fait central. Je ne sais pas à quel kilomètre ça s'arrêtera, mais il est évident que ça dépend aussi des capacités des armes, des capacités des missiles, des capacités des antimissiles, et c'est la discussion qui a lieu. Je dois dire que la position des Russes est quand même une position très remarquable, qu'on aime Poutine ou non.
Remarquable. C'est-à-dire, Ilan Grelzheimer.
C'est-à-dire que c'est bien joué de se retrouver dans une situation dans laquelle on puisse arbitrer. Le grand problème de Trump et des Américains, c'est qu'ils ont perdu, par leur déclaration intempestive, cette possibilité de jouer vraiment un rôle entre toutes les parties, position qu'a actuellement la Russie. Juste un mot en ce qui concerne les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Pour moi, c'est l'interview du commandant en chef Eisenkot des forces israéliennes dans un journal de l'Arabie Saoudite qui est quand même un signe très fort de ce qui se passe en dessous, du dessous des cartes. Je pense que c'est très avancé. Pierre parlait du débat. En Israël, il n'y a pas de vrai débat sur le fait de savoir s'il faut être proche de l'Arabie Saoudite ou non. Israël a toujours eu une stratégie tous azimuts, et donc ceux qui veulent se rapprocher de nous, c'est très bien. Dernière chose, on a parlé de la question palestinienne. Et là, il faut le dire, qu'il y a un hiatus entre les sentiments des masses populaires arabes, qui sont évidemment très solidaires de la cause palestinienne, et l'absence totale d'intérêt que manifestent les élites des pays arabes, qu'il s'agisse des Saoudiens, qu'il s'agisse d'Al-Sisi, qu'il s'agisse même du roi de Jordanie et d'autres élites et dirigeants, leur manque d'intérêt pour la cause palestinienne est assez criant. Et je dois dire que ceux qui restent très solidaires des Palestiniens, d'une certaine façon, c'est la gauche israélienne, c'est le camp de la paix israélien. Mmh. Heureusement qu'il existe, parce que sinon je ne vois pas tellement qui interviendrait en la matière.
Elisabeth Marteux, peut-être une réaction assez courte et on reprendra dans la deuxième partie de l'émission.
Sur la question effectivement d'Eisenkot, donc du chef d'état-major israélien dans la presse, donc c'est au journal Aleph en fait, qui est effectivement un journal arabe financé par l'Arabie Saoudite. C'est très intéressant de voir que le CEMA s'exprime dans ce média-là. Mais avant lui, le COGAT, c'est-à-dire le représentant dirigeant les territoires palestiniens, représentant israélien en charge des territoires occupés palestiniens, s'était déjà exprimé dans Aleph pour parler de la situation à Gaza et des groupes djihadistes dans le Sinaï. Donc c'est vrai que ce n'était pas la première fois quand même qu'un Israélien en parlait. Et d'autre part, quand le CEMA israélien s'est exprimé, c'était aussi pour dire, à l'époque de la crise inter-CCG, qu'Israël ne répondrait à aussi aucune sollicitation extérieure quand il s'agirait de se confronter au Hezbollah. Ça permettait aussi de dire que certes, on pouvait échanger des renseignements avec les Saoudiens à tout moment, c'est ce qu'a dit Eisenpot. Il a quand même rajouté aussi, quand il s'agira du Hezbollah, là, c'est Israël qui décidera seul.
On poursuivra, Elisabeth Marteau, dans la deuxième partie de l'émission. Je précise juste, donc, le CCG, c'est le Conseil de coopération du Golfe. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Elisabeth Marteau, Ilan Grelzhammer et Pierre Razou, dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la relation d'Israël avec ses voisins. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Bahreïn. Elisabeth Marteau, chercheuse sur le Moyen-Orient à l'Institut international d'études stratégiques, spécialiste du conflit israélo-palestinien, auteur de Israël et les pays du Golfe, les enjeux d'un rapprochement stratégique, une étude de l'IFRI. Ilan Grelzhammer, professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan près de Tel Aviv, auteur de nombreux essais sur la société israélienne, dont la nouvelle histoire d'Israël paru aux éditions Gallimard. Et Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, auteur de l'Arabie Saoudite et Israël, une alliance discrète autour d'intérêts communs, article paru dans le dernier numéro de la revue Questions internationales consacrée à l'Arabie Saoudite. Et Pierre Razou, qui est également l'auteur notamment de Guerre Iran-Irak. Elisabeth Marteau, on évoquait dans la première partie de l'émission le rapprochement entre Israël et certains pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite, et se poser la question de savoir jusqu'où cette relation pouvait aller. On évoquait la question de la normalisation, et Ilan Grelzhammer faisait le constat de l'absence d'intérêt des élites arabes sur la question palestinienne. Elisabeth Marteau.
Oui, je partage cette analyse. Il y a effectivement peu d'intérêt des dirigeants arabes, en tout cas, pour la question palestinienne. Et la question palestinienne, aujourd'hui, représente plus un problème à gérer pour les dirigeants arabes de la région. Mais, en réalité, ils ont quand même envie que la question soit réglée. C'est-à-dire que ça représente un problème, qu'ils n'aient pas envie de les soutenir, qu'ils en aient assez, qu'ils soient lassés. C'est une réalité. Et justement, ils aimeraient bien aussi que la question se règle. Donc c'est pour ça que les Golfiens réfléchissent aussi avec les Américains et d'une certaine manière avec les Israéliens pour essayer de trouver une solution à ce problème. En réalité, sur la question de la normalisation, c'est un peu un faux débat. Moi, je ne crois pas non plus à la normalisation entre Israël et les pays du Golfe. Je pense que les Golfiens n'ont pas intérêt à normaliser leurs relations avec Israël. Ils peuvent très bien avoir des relations, avoir une alliance stratégique, échanger des informations quand ils en ont besoin, trouver des subterfuges économiques pour faire travailler certaines entreprises. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Je pense qu'Israël a besoin d'aller plus loin. Je pense que Benjamin Netanyahou aimerait aller beaucoup plus loin dans l'officialisation de ses relations avec les pays arabes de la région, ne serait-ce que pour montrer que la question palestinienne ne représente plus rien. Ça, ce serait une victoire pour lui, parce que depuis 2011, les Israéliens n'ont de cesse de dire que la question palestinienne ne représente plus rien au Moyen-Orient. Forcé de reconnaître qu'ils n'ont pas tort, mais ce serait une formidable victoire pour lui d'arriver à conclure un accord avec les Golfiens sans régler la question palestinienne.
Pierre Razou.
Oui, et quand on se rappelle, il y a quelques semaines, de la proposition donc du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman de mettre la capitale palestinienne à Abu Dis, c'est une aimable plaisanterie. Mmh. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit bien que les plus hautes autorités du Golfe sont extrêmement embêtées par cette question palestinienne, d'autant plus qu'en abandonnant le dossier palestinien, évidemment, qui s'en saisit ? Eh ben, ce sont les Iraniens et les Turcs. Donc évidemment, c'est, si vous me passez l'expression, c'est du pain béni pour M. Erdogan et M. Rouhani de jouer à fond la carte palestinienne, non pas du tout parce qu'ils ont de l'empathie vis-à-vis des Palestiniens, mais parce que l'occasion est trop belle pour eux d'enfoncer un clou dans le clan arabe, d'enfoncer un clou dans la normalisation possible ou éventuelle entre Israël et les monarchies du Golfe, pour mettre les dirigeants devant leurs propres contradictions.
Alors, pour poursuivre avec cela, on évoquait les fuites, vous le disiez, Ilan Grelzhammer, tout à l'heure, dans la presse, à propos de ce rapprochement stratégique entre Israël et l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il existe des discussions entre Israéliens et l'Arabie Saoudite, on l'a dit dans la première partie de l'émission. Récemment, une fuite orchestrée dans le Wall Street Journal qui révélait que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite réfléchissaient à une amélioration de leurs relations avec Israël, étaient évoquées les liaisons aériennes, télécommunications, visas pour les voyageurs, etc., en échange d'un gel partiel de la colonisation. Donc, la question palestinienne est toujours en filigrane.
Oui.
Ilan Grelzhammer.
Et pour parler des choses dont je m'occupe plus précisément, beaucoup dépend de la scène israélienne, de la scène politique israélienne. Les choses bougent. Nous attendons de savoir si le premier ministre israélien, qui est quand même une personnalité extrêmement dominante sur la scène politique israélienne, va être accusé et va devoir quitter le pouvoir, ce qui est très possible dans les temps proches. Est-ce qu'il y aura un nouveau gouvernement israélien? Est-ce qu'il y aura une reformation des forces en présence? Est-ce que les partis les plus à droite et les plus nationalistes qui poussent à la colonisation seront peut-être évincés d'un nouveau gouvernement? Il y a là une recomposition politique qui aura un impact sur la possibilité d'un gel des implantations ou non. Et c'est une donnée dont il faut tenir compte.
La question qui se pose, et je me tourne vers vous, Elisabeth Marteux, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont conscience quant à la nécessité de continuer de se préoccuper de la question palestinienne, que s'ils ne le font pas eux-mêmes, ce que disait Pierre Razou, c'est que ça c'était apporté sur un plateau d'argent à l'Iran et à la Turquie.
Oui, ils en ont conscience. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est basé dans le Golfe, on a quand même cette sensation que la question palestinienne est très éloignée. Donc la question palestinienne n'est pas une priorité, n'a jamais été une priorité ici. En revanche, c'est vrai que ça peut être un cadeau donné à l'Iran et au Hezbollah, donc aux alliés iraniens. Donc en ce sens, il faut quand même qu'ils se positionnent sur la question. Mais pas seulement, il y a aussi la volonté de l'administration Trump d'arriver à quelque chose sur la question palestinienne, parce que l'idéal serait de rapprocher ces deux piliers aujourd'hui du soutien américain que sont Israël et l'Arabie Saoudite. Donc derrière, il y a aussi la relation avec les États-Unis qui est très importante. Les Saoudiens ont besoin du soutien américain, et c'est vrai que si dans le même temps on peut faire plaisir à Trump en faisant quelque chose vis-à-vis des Israéliens d'une pierre deux coups en réglant la question palestinienne, bon, ça, ce serait le fameux deal idéal de Donald Trump, dont en réalité, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, en attendant, dans cette grande relation triangulaire entre Israël, l'Arabie et les États-Unis, eh bien, il y a toutes sortes de rumeurs et de surinterprétations. Et là, c'est très difficile d'y voir clair. Typique, la question d'Abou Dis. Donc, effectivement, on a beaucoup dit dans la presse, Mahmoud Abbas lui-même a reconnu qu'on lui avait proposé à Abou Dis, à Riyad. Il y a d'autres interprétations qui disent que ce n'est pas Mohamed Ben Salman qui a proposé à Abou Dis, à Mahmoud Abbas. Ce sont les Américains, donc Jared Kushner et Donald Greenblatt, qui sont venus, qui ont proposé à Abou Dis. Et donc là, effectivement, MBS a réfléchi à demander à Mahmoud Abbas où étaient les lignes rouges palestiniennes. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a des nuances dans l'interprétation. Est-ce que ce sont les Saoudiens qui seraient assez inconscients pour proposer à Abou Dis, ou est-ce que ce sont les Américains qui proposent, les Saoudiens qui en parle et qui essaie de négocier quelque chose. Je pense que c'est souvent dans ces interstices que se situe la réalité.
Vous avez une réponse, l'un et l'autre, Pierre Razou et Ingrid Zamer, sur ce que vient d'évoquer Elisabeth Marteux ?
Juste un point que je voulais mentionner. Il y a des pays dans lesquels il y a un vrai débat sur les options. Je pense que c'est le cas d'Israël, évidemment. C'est dans une large mesure le cas de l'Iran aussi, dans lesquels on sent qu'il y a des discussions stratégiques. Par contre, quand on parle de l'Égypte et de la Turquie, on parle aujourd'hui d'un homme. Ce sont des régimes dictatoriaux. Mmh. Erdogan aujourd'hui décide ce qu'il fait et M. Al-Sisi décide ce que l'Égypte fera. Et c'est une donnée très importante de savoir si on parle d'un pays où il y a un débat ou d'un pays où il y a la décision d'un homme. C'est parce
Pierre
que
Razou.
Pierre en pense.
Oui, tout à fait. Et ce qui est certain, c'est qu'en Iran, il y a débat. Le paradoxe de l'Iran, c'est que c'est un pays dont les dirigeants vouent hégémonie le système américain, mais qui en fait copie le système américain, qui l'ont copié dans le système d'équilibre des pouvoirs. Mmh. Et à chaque fois que le régime iranien crée un pouvoir, il crée immédiatement à côté un contre-pouvoir. Et toute l'art, entre guillemets, de la politique iranienne, quels que soient les dirigeants ou leurs factions, sont d'équilibrer en permanence ces pouvoirs-là. Et aujourd'hui, vous avez des gens à Téhéran qui vous disent, mais en fait, si demain les Palestiniens trouvent un accord acceptable pour eux avec Israël, nous, Iraniens, n'aurons plus aucun problème à normaliser nos relations avec Israël. Donc c'est pour montrer qu'il y a un débat. Et alors, évidemment, tout le monde n'est pas sur cette ligne-là. Vous avez en même temps la faction la plus conservatrice qui dit Israël reste un adversaire de long terme comme les États-Unis. Mais c'est pour montrer que oui, il y a un véritable débat, au moins par exemple en Iran.
Alors moi j'ai cette question finalement, Ilan Grelzamer, qui a le plus peur de l'Iran aujourd'hui, si on va plus loin par rapport à ce que disait à l'instant Pierre Razou, ce serait les pays du Golfe.
Oui, ce sont ces pays du Golfe et l'Arabie Saoudite qui n'ont pas les moyens de se confronter à une menace militaire iranienne et qui en ont extrêmement peur. Israël fait extrêmement attention concernant les avancées des Iraniens et des milices chiites dans la région, mais je ne vois pas que ça empêche forcément les gens de dormir comme ailleurs.
Elisabeth Marteux ?
Oui, je le confirme. Puis alors, en étant basée à Bahreïn, je peux vous confirmer qu'au quotidien, la crainte, c'est l'Iran, et bien plus qu'Israël. C'est une évidence. Quand on est à Tel Aviv ou à Jérusalem, l'Iran est bien éloigné, c'est pas la priorité. Ici, c'est vraiment une angoisse vitale au quotidien.
Alors, j'aimerais revenir sur la question syrienne avec vous, peut-être, Pierre Razou. Ilan Grelzhammer évoquait la notion géographique quant aux positions des forces directement ou indirectement sous le contrôle de l'Iran. La question géographique, c'est une question. Il y a aussi le nombre, on l'a pas encore évoqué, de ces forces qui pourraient rester sur place. Et la question au-delà de ça, est-ce que Moscou a véritablement capacité à dicter son agenda sur la Syrie ?
Pour comprendre la relation complexe unissant Damas, Moscou et Téhéran, il faut bien comprendre la chose suivante. Le régime de Damas ne peut pas survivre sans le soutien absolu et de la Russie et de l'Iran. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Bachar al-Assad voit les Russes et les Iraniens, disons, pas s'affronter, mais en tout cas rentrer dans une phase de négociation, voire de friction réelle, et que ça lui fait très peur. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si finalement il y avait un affrontement, ou en tout cas une tension forte entre l'Iran et la Russie, il pourrait en faire les frais. Donc le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt du régime syrien, c'est de mettre de l'huile dans les rouages pour que les relations entre la Russie et l'Iran restent bonnes. Là où, pour des raisons de géopolitique lourdes, et la Russie et l'Iran ont intérêt à définir, enfin sont en train de définir leur zone d'influence en Syrie. Alors, est-ce que c'est compatible avec l'intérêt des uns et notamment l'intérêt d'Israël ? Personnellement, je pense que oui. Je suis d'accord aussi sur la notion, donc, comme le disait Ilan Grelzhammer, des lignes géographiques. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, en fait, l'Iran cherche ce corridor terrestre en direction de la Méditerranée et du Liban. Alors après, où passe le corridor ? Bah, c'est justement tout ce qui est en discussion aujourd'hui entre Israéliens, Russes et indirectement Iraniens, en fonction de la portée des missiles des uns, de la portée des systèmes des autres, et ainsi de suite. Là-dessus, je voudrais rajouter un point sur ce que je disais sur la dissuasion, parce que je crois que, je remartèle ce mot, parce qu'il est à mon avis essentiel dans la situation aujourd'hui, dans le contexte géopolitique du Levant. Parce que d'un côté, vous avez finalement Israël qui a l'arme atomique, qui a une aviation extrêmement puissante qui lui permet de finalement intervenir à peu près où elle le souhaite au Moyen-Orient. Donc de l'autre côté, vous avez une dissuasion asymétrique de la part de l'Iran qui consiste à miser finalement non pas sur son aviation, puisque son aviation est très vieille et peu performante. Bien sûr, elle n'a pas l'arme nucléaire et elle n'a pas d'armes, on va dire, de destruction massive. Donc de miser sur autre chose, sur une dissuasion asymétrique. Et cette autre chose, c'est quoi ? Bah, ce sont les milices, le Hezbollah et les missiles balistiques. Le principe, c'est de dire Israël, et pas qu'Israël d'ailleurs, mais Israël, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, les grandes puissances ont un arsenal classique. Eh bien nous avons un arsenal asymétrique constitué du Hezbollah et des missiles balistiques. Donc c'est pas du tout pour justifier les uns ou les autres, mais en tant qu'analyste, c'est pour expliquer, si vous voulez, qu'il ne faut pas mélanger les petits pois et les carottes quand on parle de dissuasion dans ce débat-là.
Il n'empêche que cette dissuasion, vous parlez d'asymétrie, c'est vrai que on n'est pas du tout au même niveau. Et pour ce qui est de la volonté peut-être de montrer un poids, vous parliez de guerre froide, Pierre Razou, s'il devait y avoir deux foyers de crise, ce serait, puisque l'Iran a l'influence à la fois sur le Liban et sur la Syrie, voilà. Et là aussi, on évoquait la question des lignes rouges. Qu'est-ce que l'on sait des lignes rouges iraniennes ?
Bah, les lignes rouges iraniennes, c'est ça, c'est-à-dire c'est conserver le lien, on va dire, matériel et physique permettant de relier l'Iran au Hezbollah, c'est-à-dire au Hezbollah au Liban. C'est maintenir le lien physique jusqu'à Damas. c'est accéder à la mer Méditerranée d'une manière ou d'une autre, soit au Liban, soit sur les côtes syriennes. Mais là, Tartous et Latakié sont contrôlés par la Russie, et c'est bien ça tout le problème pour les Iraniens. C'est être capable de sécuriser sur le long terme cet axe terrestre reliant l'Iran à la Méditerranée, et bien entendu à travers des territoires peuplés majoritairement donc de populations chiites, ou en tout cas capables de s'entendre à la fois avec le régime syrien et avec le régime irakien, il faut pas l'oublier non plus, hein, à Bagdad, et avec le régime iranien. Donc en fait, c'est créer une sorte de serpent sinueux permettant à l'Iran de porter ses intérêts économiques, notamment en direction de la Méditerranée et de l'Europe. Parce qu'une fois encore, l'intérêt, tel que je le comprends, l'intérêt de beaucoup de pays de la région, à commencer par l'Iran, mais pas que, également les monarchies du Golfe et même Israël, c'est de multiplier les partenariats économiques dans l'ensemble de, enfin, en direction de l'ensemble des, du monde. Parce que le facteur économique aujourd'hui est absolument décisif.
Donc pour l'Iran, on l'a bien compris, volonté de sortir de l'isolement.
Oui, bien sûr.
J'en reviens à The Economist, et pardon, mais c'est vrai que cette question est évoquée dans la dernière édition de cet hebdomadaire, Ilan Grelzhammer, le risque d'un, enfin risque, je ne sais pas, mais on évoquait en début d'émission la construction d'un mur à la frontière israélo-libanaise. Est-ce que ce mur pourrait aller au-delà? Est-ce qu'on peut voir un Israël enfermé progressivement?
Bon, c'est, là, on est dans la question des perceptions et des représentations. Les Israéliens n'ont pas l'impression d'être enfermés dans des murs, mais d'avoir des murs fonctionnels. C'est un fait que le mur, enfin la barrière à la frontière de l'Égypte, est pratiquement infranchissable. Donc déjà, c'est une direction. Le mur, qui n'est d'ailleurs pas fini avec les Palestiniens, vise à empêcher des actions terroristes. Donc, pourquoi pas un mur avec le Liban? Je suis toujours frappé, notamment lorsque je suis en France ou en Europe, par la peur, la détestation qu'on a à l'égard des murs, en évoquant bien sûr le mur de Berlin, etc., etc. Les Israéliens n'ont pas le sentiment que les murs soient problématiques, d'autant que les murs peuvent être détruits très facilement. Pour revenir à l'article auquel vous faites allusion, je crois que la position, en tout cas militaire, d'Israël actuelle est une position forte. Le programme antimissile d'Israël est excellent et il doit être encore développé. Je ne vois pas qu'Israël puisse être atteint par un missile grave venant de l'Iran ou d'ailleurs. Et quant au scénario de la guerre avec le Hezbollah et des missiles qui sont tombés sur le nord d'Israël, je ne crois pas que ça se reproduira. Je crois que l'armée israélienne montrera au Hezbollah qu'il n'y a aucun intérêt à faire ce qui a été fait dans le passé. Il n'y a donc pas d'intérêt des parties en présence à déclencher un affrontement majeur. Bien sûr, dans les articles et dans la presse, on peut dire c'est la tarte à la crème, c'est une poudrière, n'importe quelle étincelle, etc. Mais dans le contexte actuel, je ne vois pas la déflagration majeure.
Alors, un mot de conclusion peut-être, où on la laisse à Ilan Grelzhammer
sur cette question. Non, je serais très intéressé de savoir ce que Pierre Razou veut dire.
Alors, Pierre Razou, très rapidement.
Pense-t-il qu'il y aura une déflagration majeure?
Enfin, je suis d'accord sur cette vision par entre Israël et ses voisins immédiats. S'il y a un risque de déflagration, peut-être pas majeur, mais en tout cas d'affrontement militaire réel, encore une fois, je le vois plus entre les armées régulières qui se battent aujourd'hui en Syrie, autour de la position des Kurdes, entre l'armée turque, entre l'armée syrienne, entre l'armée russe, entre l'armée iranienne, entre le Hezbollah. Là, oui, je vois beaucoup plus de risques d'affrontement, si vous voulez, en fait, à l'intérieur de ce même camp, plutôt qu'entre Israël et ses voisins.
Le Moyen-Orient a changé, les alliances se recomposent, on l'a compris, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités par téléphone depuis Bahreïn, Elisabeth Marteux, chercheuse sur le Moyen-Orient à l'Institut international d'études stratégiques, spécialiste du conflit israélo-palestinien et auteur de Israël et les pays du Golfe, les enjeux d'un rapprochement stratégique, une étude de l'IFRI. Ilan Grelzhammer, professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan près de Tel Aviv, et Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'IFRI. l'école militaire. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Marjorie Bertin, Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée au Nil et l'urgence qu'il y a à ce que Éthiopiens et Égyptiens parviennent à un accord.